Alors ce soir, nous allons partager un bout de l'Écriture et je vais parler sur le thème « Faire face aux batailles héritées et aux schémas négatifs ». Faire face aux batailles héritées et aux schémas négatifs. Je répète le thème de ce soir. Faire face aux batailles héritées et aux schémas négatifs. Alléluia. Alors, vous savez, quand nous parlons des batailles, nous parlons des combats, nous parlons des difficultés, nous parlons des conflits, nous parlons des oppositions. Alléluia. Et lorsque nous arrivons au mot « hériter », nous comprenons que « hériter » signifie simplement recevoir un bien, un titre, par voie de succession, par voie de succession de quelqu'un qui est décédé. Alléluia. On n'hérite jamais de quelqu'un qui est vivant. Ce n'est pas possible. Amen. On n'hérite pas de quelqu'un qui est vivant. On n'hérite que de quelqu'un qui est déjà mort ou qui est sur le point de mourir. La preuve, la Bible, on l'appelle comment? L'Ancien et le Nouveau Testament. Quelqu'un est mort, il a laissé un testament. Alléluia. Et nous voyons ses dernières volontés dans les Écritures. Alléluia. Donc, alors, hériter encore, c'est devenir propriétaire d'un bien par voie de succession. Amen. C'est devenir propriétaire d'un bien par voie de succession. Ici, il signifie également recevoir d'un prédécesseur. Alléluia. Recevoir de quelqu'un qui t'a précédé, qui a été là avant toi. Beaucoup de nous avons hérité des choses dans nos vies. Nous avons hérité des dons, des grâces, des bénédictions, des choses bonnes et même des choses mauvaises. Alléluia. Que nous avons hérité dans notre marche. Alléluia. Et donc l'héritage est l'action de recevoir quelque chose de quelqu'un qui est mort. L'action de recevoir quelque chose de quelqu'un qui est mort. En général, chacun demande à ses parents de lui laisser un héritage. Alléluia. En tant qu'enfant, nous héritons de nos parents. Alléluia. Mais tant que ton père est vivant, tu ne peux pas prendre sa maison. Mais quand il est mort, tu hérites de la maison, tu hérites de ses chaussures, tu hérites de son pantalon, tu hérites de son chapeau. Alléluia. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous héritons et nous comprenons que l'héritage ne se passe qu'après le départ de l'autre. Alléluia. Le départ de l'autre. Alors, prenons notre premier texte de ce matin, de ce soir, Lamentations chapitre 5, le verset 6 à 7. Lamentations 5, 6 à 7. Et ensuite, nous lirons le deuxième texte dans le livre des 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 au verset 3. 1 Roi, chapitre 21, le verset 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Lamentations 5, le verset 6 à 7. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Je reprends la lecture. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jiré avait une vigne à Jizré, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Alléluia. Voyez, lorsque nous revenons au livre du commencement, qui est le livre de la Genèse, nous y voyons les premiers hommes. Quand on parle des premiers hommes, Adam et Ève, tombés dans le péché, dans le jardin, Genèse chapitre 3. Et leur esprit va mourir dans le processus de cette désobéissance. Et leur corps va être corrompu. Et la Bible nous enseigne qu'ils se sont unis à ce moment-là à la nature du diable, de Satan. Et en conséquence, et par droit d'héritage, ils ont transmis cela aux prochaines générations. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans les Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Comme un enfant de un jour est déjà pécheur devant Dieu. Alléluia. Comme un enfant qui n'a qu'un seul jour, une seule minute sur la terre est déjà un pécheur. Par voie d'héritage. Alléluia. Et donc la Bible nous enseigne clairement que par voie de succession, par voie d'héritage, les familles naturelles ont commencé à générer ce que j'ai appelé dans le thème de ce soir, des schémas négatifs. Alléluia. Des schémas négatifs et des batailles héritées. Par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 20, à partir du verset 2, Genèse chapitre 26, à partir du verset 7, nous voyons Abraham mentir en disant que sa femme était sa sœur. Et Genèse chapitre 26, le verset 7, nous voyons Isaac à son tour également mentir que c'était sa femme était sa sœur. Ce qui est hérité des parents doit être utilisé et transmis à la génération suivante. Dans notre livre de 1 Roi chapitre 21, revenons même dans Lamentation 5, le verset 6 à 7. Jérémie dit ici que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Alléluia. Et c'est nous qui portons la peine de leur héritage, de leur iniquité. En d'autres termes, ils nous ont transmis un héritage. Alléluia. Ils sont partis. Maintenant, l'héritage qu'ils nous ont donné, c'est les conséquences de leurs mauvaises actions, c'est les conséquences de leurs mauvaises attitudes, c'est les conséquences de leur désobéissance. C'est pourquoi en tant que parents, nous devons bien marcher. Parce que nous ne transmettons pas seulement des voitures à nos enfants, nous ne transmettons pas seulement des maisons à nos enfants, mais nous transmettons un état d'esprit. Alléluia. Un état d'esprit, un état d'âme. Et cela a une valeur importante. Alléluia. Et donc, Jérémie dit ici, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Il n'a pas dit nos pères ont fait du bien. Bien-aimé, vous voyez que autant lorsqu'on fait du bien, autant lorsqu'on fait du mal, on laisse quelque chose à la génération suivante. On laisse quelque chose à la génération suivante. C'est pourquoi en tant que chrétiens, aujourd'hui nous héritons de Jésus. Nous héritons d'Abraham par Jésus. Alléluia. Chaque jour nous parlons de l'héritage d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham n'est disponible que pour les enfants d'Abraham. Alors nous devenons enfants d'Abraham lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en cela, nous sommes qualifiés pour avoir la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé. Voyez? Naboth ici, dans 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 3, va être approché par le roi Akab, le roi de Samarie, parce qu'il avait vu l'héritage qui revenait à Naboth, qui lui plaisait, et il va lui dire, écoute, ta vigne est proche de mon palais. Alors, je souhaiterais que tu me le cèdes pour que j'y fasse un potager plus grand. Et soit je te donne une vigne meilleure, soit je te donne la valeur en argent. Et Naboth va dire non. Ce n'est pas simplement une histoire d'argent. C'est davantage une histoire sentimentale. C'est une valeur sentimentale. Cela m'a été transmis par mes parents et je dois également, et j'ai la responsabilité de le transmettre également à mes enfants. Bien-aimé, qu'est-ce que tu t'apprêtes à donner à tes enfants? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à laisser comme héritage à la prochaine génération? Qu'est-ce que tu t'apprêtes? Ou je vais encore aller plus loin? Bien-aimé,
Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents, toi aussi? Qu'est-ce que tu as hérité et que tu t'apprêtes toi aussi à laisser à la prochaine génération? Naboth avait hérité des terres et il s'apprêtait lui aussi à remettre à ses enfants. Aujourd'hui, très peu de chrétiens se rendent compte qu'ils ont un héritage à transmettre. Très peu d'enfants de Dieu se rendent compte qu'ils ont un héritage à transmettre.
Alléluia. Alors lorsque vous continuez à observer les Écritures, vous vous rendez compte que l'héritage ne concerne pas simplement les femmes ou les hommes. Alléluia. À un moment donné, on croyait que c'était simplement les hommes qui héritaient dans des familles. Même Dieu a réglé la question que le sexe n'a pas de valeur. Alléluia. Lorsque nous lisons une histoire dans le livre de Nombre, chapitre 27, nous y voyons une famille qui n'y avait pas de garçons. Alléluia. Il n'y avait aucun garçon. Les filles de Zélophar. Alléluia. Il n'y avait aucun garçon dans cette famille. Il n'y avait que des filles. Et ces filles sont allées voir Moïse pour dire, Moïse, est-ce que notre maison va mourir? Et il n'y a pas d'homme. On fait comment? L'héritage de notre père va-t-il rester comme ça? Alléluia. Il dit, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Et la Bible dit que Moïse va aller vers Dieu avec le sujet. Et Dieu va dire à Moïse, les filles de Zélophar ont raison. Tu les donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Voyez, il est important pour nous de comprendre que tu sois fille ou garçon, tu portes quelque chose et tu transmets quelque chose. Non, ça ne concerne que les garçons. Oui, mais toi aussi, tu as quelque chose à transmettre. Alléluia. Et il est également important, bien aimé, ce soir, de comprendre les origines des batailles de la vie. Tout à l'heure, je nous ai donné le thème, faire face aux batailles héritées. Les batailles. Je vous ai dit, les batailles, c'est les conflits, c'est les oppositions, c'est les difficultés. C'est les oppressions. Alléluia. Chacun de nous a sa bataille. Chacun de nous est confronté à une bataille. Qu'il le croit ou pas, qu'il l'accepte ou pas, qu'il soit riche ou pauvre, il a une bataille qu'il mène. Alléluia. Et cette compréhension nous aidera à mener les batailles de la vie avec précision et efficacité. Nous savons qu'en vertu de la loi sur l'héritage, les enfants peuvent hériter les biens peuvent hériter les richesses ou la pauvreté de leurs pères ou de leurs ancêtres. Ils peuvent également hériter d'une vie de victoire ou d'une vie de défaite. De même que l'on hérite l'argent, les chaussures, les vêtements, les voitures, les actions dans des banques, dans les entreprises et autres bénédictions, beaucoup aussi héritent des pactes diaboliques, des malédictions, la stérilité, la pauvreté, les foyers brisés, les mariages retardés, les noms diaboliques, les démons familiaux, les mauvaises santé, la souffrance, bref, la mort par imprégnation des parents ou des ancêtres. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous observons les Écritures, nous voyons Abraham qui va souffrir de ce type de mauvais héritage. Abraham, notre père. Genèse chapitre 1, le verset 20. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 1, le verset 20, le verset 22, le verset 24. Nous y voyons l'histoire d'Abraham. Nous y voyons l'histoire d'Abraham. Alléluia. Ses ancêtres ont eu des enfants très tôt et tout allait bien pour eux. Le problème a commencé avec son propre père, Terah. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 11. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? C'est plutôt Genèse chapitre 11, s'il vous plaît. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 20, le verset 22, le verset 24.
Alléluia. Alors, le problème doit commencer avec Abraham par son père, Terah. Rappelez-vous que Terah veut dire retard. Alléluia. Terah veut dire retard. Amen. Alors, son nom déjà était un problème. Alléluia. Le nom de Terah était un problème. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 1, le verset 26, le verset 28, le verset 30, nous voyons clairement ici que la malédiction touchait toute la famille et plus précisément Abraham. Si nos parents avaient vaincu tous les Goliath, défis auxquels ils étaient confrontés à leur époque, nous aurions peut-être été épargnés par certaines batailles que nous mettons aujourd'hui. Or, observez très bien. Allons-y dans Genèse chapitre 11. Revenons dans le livre de Genèse chapitre 11. Nous y voyons, à partir du verset 20, on parle là de Réou, âgé de 32 ans, engendra Sérou. Sérou engendre, vécu après la naissance de Sérou, 207 ans. Et il engendra des fils et des filles. Sérou, âgé de 30 ans, engendra qui? Nahor. Alléluia. Nahor, Sérou vécut après la naissance de Nahor 200 ans. Et il engendra des fils et des filles. Nahor, qui est le grand-père d'Abraham, lui aussi, âgé de 29 ans. Amen. Engendra qui? Terah. Il engendra à quel âge? 29 ans. Maintenant, regardez. Observez la suite au verset 26. Alléluia. La Bible dit Terah âgé de 70 ans. Donc, Nahor engendra à 29 ans. Terah engendra à 70 ans. Regardez les problèmes. Il y avait eu un retard. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dans ta Bible, n'est-ce pas? Vous voyez? Dans certaines familles, le retard des fruits des entrailles et aussi l'expression de la stérilité. Alléluia. Il y a des femmes qu'on ne leur empêche pas d'accoucher, mais elles vont accoucher à un âge avancé. Elles vont accoucher tardivement. Alléluia. Alléluia. Va accoucher tardivement. Pas au moment où il fallait. Alors, voyez, si nos parents prenaient la mesure des batailles de leur vie, comme David l'a pris à l'endroit de Salomon, alléluia. Écoutez le témoignage dans 1 Roi chapitre 5. Écoutez le témoignage que Salomon lui-même va rendre de l'action de son père vis-à-vis de lui. Et pourquoi lui pouvait vivre tout ce qu'il vivait. Alléluia. 1 Roi chapitre 5, on regarde à partir du verset 3. Alléluia. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. David n'a pas pu bâtir. Pas parce qu'il n'avait pas les moyens. Pas parce qu'il n'avait pas les capacités. Non. Mais parce qu'il avait un interdit sur sa vie. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Il a eu droit à certaines guerres. Et à cause de cette guerre, bien aimé, il y a des guerres qui t'enveloppent de manière à ce que tu n'accomplisses pas ce pourquoi tu as été envoyé. Alléluia. Il y a des guerres qui ont pour mission de t'empêcher de faire ce que tu dois faire. De faire ce que tu dois faire et quand il faut le faire. Ces guerres ont pour but de te déconnecter. Ces guerres ont pour but de te déplacer de la zone même où tu dois être. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez? Il dit à cause des guerres. Donc ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Regardez le verset 20, le verset 4. Il dit maintenant, alléluia. Dis avec moi maintenant. Il dit maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Bien aimé, c'est possible de ne plus avoir d'adversaires. C'est possible de ne plus avoir de calamités lorsque l'Éternel te donne le repos de toutes parts. Je prie pour toi. pendant ces 21 jours dans lesquels tu t'apprêtes à entrer. Que l'ennemi mette hors d'état de nuit tous tes adversaires. Qu'il mette hors d'état de nuit toute calamité. Et te donne le repos de toute part dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée. Au nom de Jésus.
Assois-toi, bien-aimé. Voyez? Si nous avions des parents comme David, qui avaient pris la mesure du lendemain, qui ne vivaient pas seulement pour les saisons, mais qui vivaient en prévoyant les saisons qui venaient après lui. Vous voyez, aujourd'hui nous avons beaucoup de parents égoïstes. Et nous-mêmes, nous sommes des parents égoïstes. Nous ne pensons qu'à notre saison. Nous ne pensons qu'à notre bonheur. Nous ne pensons qu'à notre établissement. Et ceux qui viennent après toi, comment feront-ils?
Vous voyez? Si vous observez la trajectoire, à cause de la prière de David, Salomon a eu un règne paisible. Mais quand il s'est agi du tour de Salomon, il n'a pas prié pour son fils. Il a donné comme héritage à son fils la guerre, la division. Alors que son père à lui avait prié pour lui, lui n'a pas prié pour son propre enfant. Vous voyez, il y a des parents comme Salomon et il y a des parents comme David. Quel type de parent es-tu? Es-tu un parent responsable comme David qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait chercher la face de Dieu pour que ses enfants ne vivent pas ce que lui il a vécu, pour que ses enfants ne passent pas par les erreurs que lui il est passé? Ou es-tu un parent comme Salomon qui commet des erreurs et s'en fout de la génération suivante? Ils n'auront qu'à se battre eux-mêmes. Moi, je cherche ma tête et ça va.
Alléluia. 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 Bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous prenions conscience que cette histoire ne nous concerne pas seule. La bataille dans laquelle nous sommes ne nous concerne pas seule. La Bible dit qu'un jour, Rebecca va être enceinte et elle va aller chercher la face de Dieu. Et Dieu va lui parler de deux nations au lieu de deux enfants. Ce que tu es là, c'est une nation. Ce que tu portes en toi, ce sont des nations. Alors si tu ne comprends pas ça, tu vas mener ta vie n'importe comment. Tu vas monter et descendre. Sans prendre en conséquence et en considération que des gens vont hériter quelque chose demain. Qu'est-ce que je lègue à la prochaine génération? Je me souviens de cette histoire, de ce témoignage, de cette maman, de cette grand-mère qui a vu ses deux enfants se battre un jour. Et elle est venue les séparer, elle a dit, pourquoi vous vous battez? Grand-mère, il a fait ci, l'autre a dit, grand-mère, il a fait ça. Elle a dit, excusez-moi, elle a dit, arrêtez. Elle a dénudé son dos et elle a montré des blessures. Elle a dit, mes petits-fils, j'ai payé le prix pour que vous vous soyez en paix, pour que vous vous aimez. Alléluia. Alléluia. Abraham, quand il priait pour ses générations futures. Il ne priait pas seulement pour lui. Et le Seigneur va lui dire, ta progéniture sera nombreuse comme les étoiles et comme le sable de la mer. Ta postérité, ta descendance. Il n'a pas dit ton enfant. Ta descendance. Bien-aimé, l'enfant que tu as est ta descendance. Alléluia. Toi-même pour ta famille, tu es la descendance. Alléluia. 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 Voyez? Beaucoup de parents aujourd'hui sont inconscients, même dans l'église. Inconscients. La vie s'arrête avec eux. Tu es célibataire, tu pries seulement pour ton célibat. Tu ne pries pas pour les générations qui viendront après toi,
pour qu'ils ne vivent pas le temps de célibat que tu es en train de vivre. Pour qu'eux, ils se marient à la vitesse que tu n'as pas pu. Alléluia. Parce que ton célibat dure tout simplement parce que tu portes une génération. Ce n'est pas simplement toi. Tu n'as pas d'enfant, tu pries pour avoir d'enfant. Mais tu es égoïste. Prie pour les générations futures qui n'expérimentent pas la difficulté que tu as eue à avoir, qu'ils aient et qu'ils aient en abondance pour que ton nom soit multiplié. Alléluia! 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 Il y a une histoire dans ma famille où on raconte comment une de nos ancêtres aurait été accusée injustement d'un crime. Et on l'a amenée devant le lieu du crime. Et elle a dit, moi je ne connais rien. On a dit, comme tu ne connais rien, jure. Et elle a levé la main et elle a touché le crime. Et elle a dit, si je suis innocent, après moi, que mes enfants ne mettent au monde que des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Et que cela ne s'arrête pas. Si je suis coupable, que ma progéniture s'arrête après moi. Mes bien-aimés, ma grand-mère est venue au monde, elle était fille unique. Mais elle, elle a eu des jumeaux et des jumeaux. Ma grand-mère a eu, je crois, 3 fois ou 4 fois les jumeaux, 1 fois les triplés. En notre temps, si on va dire, il faut la césarienne, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas tout ça à cette époque-là. Et ma grand-mère montait, elle marchait droit comme le i. Alléluia. Alléluia. Et quand elle dit 3 ou 4 fois les jumeaux, avant d'avoir les 1-1, elle doit avoir peut-être 14 ou 13 ou je ne sais plus combien d'enfants comme ça elle a eu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on avait transmis chez elle? Cette grâce. Qu'est-ce que toi tu es en train de transmettre? Il y a dans des familles des gens qui volent aujourd'hui. Si tu regardes les générations en arrière, tu vas retrouver les voleurs dans cette maison. Alléluia. Parce que l'héritage est une entité spirituelle. Il y a des malheurs, il y a des héritages qui peuvent sauter 1, 2, 3 générations et atterrir sur la 4e. Du coup, les gens ne voient pas le lien. Parce qu'on dit non, notre père n'a pas connu ça. Notre mère n'a pas connu ça. Notre grand-père n'a pas connu ça. Alléluia. Personne n'a connu ça dans notre famille. Mais est-ce que tu connais 2 générations après eux? Est-ce que tu connais 3 générations après eux? Alléluia. Fais face aux batailles héritées et aux schémas négatifs. Voyez? Chaque fois que l'héritage atterrit dans une famille, ça donne un schéma. Ça donne un schéma. Ça produit un schéma de vie. Un schéma de vie. Alléluia. Un schéma de vie. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, mènent des batailles que leurs parents leur ont léguées. Il peut s'agir d'une bataille conjugale, d'une bataille pour la santé, d'une bataille financière, d'une bataille morale. La bataille s'est prolongée dans la famille parce que personne n'a affronté la bataille et ne l'a gagnée. Alléluia. David a gagné la bataille pour son fils. Bien-aimé, tu dois gagner la bataille pour la génération future. Non, tu ne dois pas les laisser tes crédits. Aujourd'hui, nous payons les dettes de ceux qui nous ont précédés. On paye des dettes alors qu'on n'a pas signé les contrats. Alors toi, est-ce que tu vas laisser la continuité de cette dette et ajouter ta dette pour eux, pour donner à tes enfants? Tu es un criminel. Alléluia. Tu es un criminel. Tu as déjà tué toute une descendance par ton manque de sérieux. Alléluia. Par ton manque de sérieux. Par ton manque de sérieux. Un homme de Dieu racontait le témoignage d'une dame qui était venue le rencontrer pour la prière. Et cette dame se battait contre le cancer du sang. Et lorsqu'il s'est davantage informé auprès de cette dame, il s'est rendu compte que c'était une maladie qui avait tué sa grand-mère, qui avait tué sa mère. Donc la grand-mère a légué à la mère. La mère a légué à sa fille. Et c'est ça que la Bible, les scientifiques appellent l'hérédité. C'est un héritage. Et le moyen de transmettre cet héritage, c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est pourquoi lorsque le docteur t'interroge et te dit, tu dis oui, dans ma famille, tout le monde vit ça, il ne peut pas changer ton sang. Tout ce qu'il a à faire, c'est attention, tu dois vivre et faire attention. Alléluia. Tu dois faire attention à ta vie. À ta vie. Vous voyez, c'est un exemple de bataille d'héritage inachevé. Nous devons tous apprendre à mener aujourd'hui des batailles d'hier et de demain. Par exemple, Terah, le père d'Abraham dont nous avons parlé tout à l'heure, dont la femme est restée stérile pendant près de 40 ans. La mère d'Abraham l'a accouchée après 40 ans d'attente. On ne voit qu'Abraham, 25 ans. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça te parle? Tu savais ça? Terah a attendu sa part d'enfant après 40 ans. Et ils sont morts prématurément. La seule personne qui a survécu, c'était Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit, quitte l'endroit là, tu es là-bas, tu vas mourir. Quitte! Quitte! Change de position. Sinon, ton histoire s'arrête là où pour tes frères se sont arrêtés. Alléluia. Abraham n'est pas devenu grand frère parce que c'était compliqué. Alléluia. Bien-aimé, le père d'Abraham, sa femme a attendu près de 40 ans, n'a pas vécu l'esprit de stérilité de son vivant. Je vous ai dit qu'il y a une autre forme de stérilité qui est le fait d'être le retard dans l'accomplissement du fruit des entrailles. Amen. Tu vas accoucher. Tout montre que tu vas accoucher. Alléluia. Donc nous voyons que, alors que son père Nahor l'engendra à 29 ans, Terah engendra Abraham alors qu'il avait 70 ans. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1, le verset 24, le verset 26. Cet esprit a rapidement repris du service dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, par l'intermédiaire de Rachel. Mais malheureusement, cette bataille générationnelle inachevée de stérilité chronique s'est terminée à l'époque de Joseph. Alléluia. Quelle bataille es-tu sur le point de donner à tes enfants? Quelle bataille que tu négliges? On dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu dis, non, je m'en sors. Alléluia. Alors, j'ai ici le témoignage d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Moses Arancillo. Il dit ceci. Il dit, presque tous les enfants que j'ai eus de mon père n'ont jamais hérité de quoi que ce soit des matériels de notre père. C'est-à-dire, tous les enfants de son père ont hérité de la pauvreté. Amen. Et son père était un pauvre fermier, cultivateur. Il dit, mais c'était un prophète. Son père était un prophète et un guerrier de la prière. Et dont les exploits attiraient les grands. Tout le monde venait le consulter. Un grand prophète, mais pauvre. Il était si doué pour la prière que les gens le sollicitaient de loin et de près pour obtenir de l'aide spirituelle. Il dit aujourd'hui, chacun de ses enfants est un guerrier de prière, mais pauvre. Il les a transmis l'héritage de la prière qui allait en droit de ligne avec l'héritage de la pauvreté. Vous ne répondez plus. Alléluia! Alléluia! Vous êtes fatigué. Est-ce que je peux avancer? Amen. Certaines personnes ont hérité des biens matériels de leurs ancêtres, en plus d'afflictions et de servitudes sataniques. Certains ont hérité d'une génération de diabète, d'autres d'hypertension, d'autres encore d'une vie d'endettement ou d'ivrognerie de la part de leurs parents. Quel est votre propre héritage? Quel est l'héritage que vous avez reçu de vos parents et de vos ancêtres? Alléluia. Quel est votre propre héritage? Ah, parfois on pleure, on dit, ah, maman est partie, papa est parti, ils ne m'ont rien laissé. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Oh, papa, il ne t'a pas laissé 100 francs, mais il t'a laissé la souffrance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'aide quelqu'un? Non, vous n'êtes pas décidé. Vous n'êtes pas là pour la prière. Est-ce que ça vous aide? Vous voyez? Maman est partie, papa est parti, et même le terrain, on a même discuté, on a même pris. Ta vie est foutue. Il a dit même le terrain qu'il a laissé par derrière, ça devient encore problématique. Ça veut dire qu'on t'a laissé l'endettement. J'ai rencontré un jeune homme un jour. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Tellement que ça m'a séduit le cœur. J'ai dit, waouh, voici un chrétien. J'ai commencé à travailler avec lui. Amen. Il m'accompagnait partout où j'allais. Et il venait, il me racontait des histoires à dormir debout. Des histoires que tu t'assieds, tu dis que waouh. Sur des gens, les gens qu'il connaît, tels qu'il connaît, tels qui est proche de lui, tels qui est proche. Et c'est comme ça qu'il commençait à m'arnaquer un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais, puisqu'il connaissait tel, et que moi aussi je l'ai connu derrière un pasteur. Amen. Je voyais le pasteur. Et je disais que non, s'il marche avec tel pasteur, il ne peut pas quand même. Amen. Bien aimé, un jour le dossier du frère a explosé. Il a disparu à côté de moi. Et un matin, je rencontrais son pasteur même. Et ça a commencé d'abord le pasteur chez qui je l'avais rencontré. Un jour, me voit et me dit, ah, prophète, s'il te plaît, il ne faut pas trop t'engager financièrement avec le frère. Il a dit, ok, ça m'étiquait même déjà. J'ai dit que oui, fais attention. Et maman à la maison me disait, attention, attention. Il dit plein de choses, mais il ne réalise rien. Il est un bon parleur. Alléluia. Et c'est comme ça que, un jour, l'affaire a explosé, il a disparu. Il a fui ma présence. Pour vous dire que, il est même allé jusqu'à escroquer Papa André, beaucoup d'argent. Si quelqu'un escroque un père comme ça, de cette dimension-là, tu es d'un mort, tu es d'un maudit. Il n'a même pas besoin d'être maudit, tu es maudit pour. Tu es maudit de génération en génération. Et alors un jour, je rencontre son pasteur même. Et on discute de lui. Et il me dit, « Broda, j'ai découvert l'histoire de ce frère. » Et je disais que même son père était un escroc. Il a escroqué la maison de quelqu'un. Il y a vécu pendant plus de 20 ans. C'est quand il est mort que les propriétaires ont récupéré leur maison. On a fait son deuil dans la cour. Et j'ai compris pourquoi ce garçon, tout ce que son père l'avait donné, c'était quoi? Le mensonge, l'escroquerie. Le mensonge, l'escroquerie, l'arnaque. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Quel est ton propre héritage? Alléluia. Quel est ton propre héritage? Et n'oublie pas, cet héritage, tu es sur le point de le donner à tes propres enfants, hein? Ah oui, n'oublie pas. Tu es sur le point. Jésus dit, si vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses. Amen. Alors, bien-aimé, toi tu es là. Tu as reçu Jésus, tu dis que tu n'es plus méchant. Mais tu es en train d'apporter la méchanceté dans ta famille. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Ou qu'est-ce que tu es en train de transmettre comme héritage? Alléluia. Les parents ont fait de leur mieux. Ils n'ont pas connu Jésus comme toi. Ils se sont battus avec les armes qu'ils ont pu. Toi, tu connais Jésus. Mais quand même, tu es prêt à transmettre plein de méchanceté à tes propres enfants, à ta descendance. Voyez, les schémas négatifs, familiaux négatifs peuvent être héréditaires. Il faut de la sagesse et l'esprit de Dieu pour pouvoir identifier ces batailles héritées et ces schémas négatifs dans votre vie et les aborder spécifiquement par la révélation de la parole et la prière spirituelle pour traiter ces schémas. Ils ne disparaissent pas simplement parce que vous les niez. Vous devez demander l'assistance du Saint-Esprit parce qu'il connaît le fondement de ces batailles et de ces schémas. Lorsque vous observez une tendance ou un schéma négatif particulier chez les membres de votre famille, chez le père, chez la mère, le grand-père, grand-mère, oncle, tante ou les frères et sœurs, c'est l'indication d'une bataille transgénérationnelle inachevée et transférée. Je voudrais qu'on observe encore une autre histoire dans les Écritures. Cette histoire, ça parle de Jérusalem. Alléluia. Vous savez que Jérusalem ne s'appelait pas au départ Jérusalem. Alléluia. Jérusalem ne s'appelait pas au départ Jérusalem. Alors, Jérusalem s'appelait au départ Jébus. Alléluia. Jébus, ça veut dire foulé au pied. Alléluia. Foulé au pied. Alors, lorsque vous observez dans le livre de Juges chapitre 19, le verset 11, Juges 19, le verset 11, 1 Chronique chapitre 11, le verset 4, 1 Chronique 11, le verset 4, vous voyez Jébus, qui était primitivement le nom donné à Jérusalem. Alléluia. Qui était au départ le nom qui était donné à Jérusalem. Et il est peu probable que le clan Jébusite existât à cette époque-là. Et archéologiquement, il n'y a pas de preuve. Amen. Mais tout ce que nous savons, c'est que lors de la conquête de Canaan par les Israélites, amen, dans le livre de Josué chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 27, nous voyons que Adoni Zédé, qui était un roi, et qui ce nom voulait dire « Mon Seigneur est juste », était roi de Jérusalem. Alléluia. Était roi de Jérusalem, et qui va être tué plus tard par Josué dans la bataille. Alléluia. Et la Bible nous dit clairement dans le livre de, toujours dans Josué 15, à partir du verset 63, que les Israélites ne purent chasser les Jébusiens de la ville et les tolérait à côté d'eux jusqu'au jour de David. Jusqu'au jour de David. Les Jébusiens ont vécu avec les Israélites. Alléluia. Et les Jébusiens étaient dans le reste du peuple cananéen qui habitait le pays de Canaan. Lors de la conquête, on ne les a pas chassés totalement. Les Jébusiens sont restés avec le peuple d'Israël. Ils se sont mélangés avec le peuple d'Israël. Et ils sont devenus une tribu à part entière. Alléluia. Et c'était un peuple guerrier. Ils étaient féroces, des féroces combattants et possédaient une forteresse ou une ville forte située sur une ville appelée Jérusalem. Donc, ils avaient leur forteresse qu'ils avaient donnée Jérusalem. Et donc, avant l'époque de David, la ville de Jérusalem n'avait jamais été gouvernée ou conquise, sauf par un homme appelé Melchisédek. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 14, le verset 18. Alléluia. La Bible le désigne comme le roi de Salem, le roi de justice, le roi de paix, le prince de paix. Il n'avait pas de parents, il n'avait pas de généalogie. Et la Bible ne nous a pas donné ses antécédents. Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 3 nous raconte tout cela. Et après lui, personne n'a régné sur Jérusalem. Jérusalem était donc une place forte et une forteresse. Et donc, de Josué jusqu'à David, on va se rendre compte que tout le monde qui va essayer d'y arriver va chuter. Jusqu'à ce que David arrive. Jusqu'à ce que David arrive. Dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 6 à 8, David entre en scène et déclare son intention de conquérir Jérusalem. Et la Bible dit que les Jébusiens vont se moquer de lui. Que qui avant toi nous a vaincus? Alléluia. Qui avant toi? Et David dit, c'est là-bas que je vais bâtir la cité de mon Dieu. La cité de David, c'est là-bas. Sur la montagne. Alléluia. Qui? Mais David ne s'est pas laissé décourager. La Bible dit qu'il mobilisa son armée et mit les Jébusiens en déroute. Et il prit le contrôle de Jérusalem et il va nommer Jérusalem comment? Sion. La ville de David. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous même que lorsque David va commettre un péché devant Dieu et Dieu va lui donner trois manières d'être puni. Il va choisir que l'ange tue. Vous vous rappelez de cette histoire dans le livre de 1 roi chapitre 5. Alléluia. Et la Bible dit que David va crier à l'Éternel parce que l'ange avait tué une partie du peuple. Et l'ange va aller s'arrêter sur l'aire d'Onan, le Jébusien. Alléluia. Le Jébusien. Et David va aller payer. Ça veut dire que cet endroit-là n'appartenait pas à David. Partout appartenait à David, sauf cet endroit. Et David va aller payer cet endroit à Onan, le Jébusien. Vous voyez? David ne pouvait pas. On appelait ça l'aide d'Arafna. Alléluia. L'aide d'Arafna. David disait, il ne peut pas donner quelque chose qui ne lui coûte pas à son Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que j'essaie de nous faire comprendre? Je nous fais comprendre ici que David, pour qu'il donne Jérusalem à la prochaine génération, a dû travailler pour gagner cet endroit. Pour la rendre libre. Alléluia. Libre. Libre. Rappelez-vous, Jésus lui-même, quand il dit qu'il va passer par Jérusalem, il va donner une prophétie sur Jérusalem. Il va dire, Jérusalem, tu seras foulé aux pieds. Qui est son véritable nom? Jébus. Qui veut dire foulé aux pieds. Il dit, tu seras foulé aux pieds par les nations. Alléluia. Alléluia. Et donc, David acheta pendant la peste l'air du Jébusien Onan pour y élever un autel à l'Éternel. Et cela laisse entrevoir que même quand David eut pris la ville, les Jébusiens continuaient à y habiter avec les Israélites. De quelle race étaient-ils? Il est assez difficile de le dire, mais la Bible nous parle d'Adoni-Zézé. Je vous ai parlé d'Adoni-Zézé tout à l'heure. Adoni-Zézé, il avait 13 doigts sur les mains et sur les pieds. Alléluia. Et il dormait sous un lit en fer parce qu'il était grand. Il n'y avait pas de lit en bois pour le garder. Alléluia. Alléluia. Adoni-Zézé a coupé les doigts de plusieurs rois. Il a mis sur sa table. C'était un roi incroyable. Allez lire l'histoire de la Bible. Et donc, Adoni-Zézé lui-même vient de la famille de Sem. C'est un sémite. Alléluia. Alors, arrêtons-nous là, sinon on va aller très loin dans l'histoire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'essaie de nous démontrer, mes bien-aimés? Que même David a dû conquérir l'héritage. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Il y a un héritage que nous recevons. Nous devons nous battre pour donner quelque chose de meilleur à nos enfants. À nos enfants. À nos enfants. À nos enfants. Alléluia. Vous aussi, vous pouvez mettre fin à tout schéma familial ou toute affliction ou limitation familiale à votre époque et rendre la vie facile aux générations qui vous succéderont. Écoutez-moi, bien-aimé. Pourquoi Bartimée était aveugle? Pourquoi Bartimée était aveugle? Quel autel le combattait? Alléluia. Il y avait un autel qui combattait l'aveugle Bartimée, qui étaient les batailles héritées. Concernant les batailles héritées, tu n'as pas besoin d'offenser qui que ce soit. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être en inimitié avec quelqu'un. Non. Tu as juste besoin de naître dans une famille qui l'a hérité. Alléluia. Et dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous raconte une histoire étrange. L'histoire d'un homme qui s'appelait Géasi, qui, par son désir, son avidité à avoir de l'argent, à s'enrichir, va prendre une offrande au moment où il ne fallait pas, de la main d'un roi lépreux, d'un général lépreux, Naaman. Vous vous souvenez de l'histoire. Alléluia. Et le prophète va donc libérer une malédiction sur la destinée, sur la postérité de Géasi. Alléluia. Alors je vous pose une question. De la famille de qui venait Bartimée? Alléluia. Alors si dans votre famille un ancêtre a eu une action comme ça, tout le monde va être lépreux dans cette famille. Tout le monde va vivre la lèpre. La destruction. La Bible dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours, signifiant que les centaines, des centaines d'années plus tard, quiconque naissait dans cette lignée familiale était automatiquement un lépreux. Était automatiquement un lépreux. Il n'a pas dit, regardez bien aimé, il y a les malédictions générationnelles. Amen. Et il y a des malédictions pour toujours. Vous voyez la différence? Générationnel, ça veut dire après 3-4 ans, ça s'arrête. Amen. Mais quand la malédiction est pour toujours, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt. Même après 10 générations, ça continue à être vivant. Et le prophète Élisée a dit, et pour toujours. C'est ça, n'est-ce pas? Il a dit pour toujours, s'attachera à toi et ta postérité, pour toujours. Alors, si aujourd'hui vous cherchez la généalogie de Géasi, ici au Cameroun, vous n'allez rencontrer que des lépreux dans cette famille.
Hallelujah. Si tu pars chercher un homme là-bas, tu ne vas rencontrer qu'un lépreux. Si tu ne vas chercher une femme là-bas, tu ne vas rencontrer qu'une lépreuse. On dit lépreuse, non? Hallelujah. Voyez, il y a des gens qui héritent ou qui ont hérité des batailles pour toujours. Je prie pour toi ce soir. Toute bataille qui a été décrétée pour toujours sur ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. S'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été décrétée pour toujours dans votre maison, dans votre famille, dans vos projets, dans vos activités, par le sang de Jésus, je renverse le nom de Jésus. 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 J'abroge le nom de Jésus. Alléluia. Essayons-nous, bien-aimés. Voyez? Mais il y a une manière de sortir des batailles pour toujours. Alléluia. Il y a une manière de sortir des batailles pour toujours. Parce que cela a commencé quelque part. Et nous devons aller à la source et refaire quoi? Une renégociation. Alléluia. Une renégociation. Une renégociation. Romains chapitre 5, le verset 18 à 19. Romains 5, le verset 18 à 19 déclare ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qu'est-ce que cela signifie? Si toi tu es juste, si tu marches dans la justice de Dieu, tu as la possibilité d'abroger la malédiction pour toujours. Alléluia. Ainsi pour que la vie arrive. Il a pris la vie pour donner la vie. Cela signifie qu'en d'autres termes, que quelque chose doit mourir pour que quelque chose vive. Quelque chose doit décroître afin que quelque chose croisse. L'héritage peut être retiré à la famille propriétaire par la mort. Alléluia. Nous avons tous hérité de la mort par Adam. Mais lorsque le testateur est mort, la mort, elle aussi, a perdu son pouvoir. Et nous avons hérité, au lieu de la mort, la vie par Jésus. Alléluia! Alléluia! Alors, ça veut dire que quoi? Celui qui a constaté, proclamé le décret. Alléluia! Lorsqu'il meurt, il y a la possibilité de rompre le décret. Il y a la possibilité de rompre le décret. C'est pourquoi dans beaucoup de nos villages, les gens doivent aller renouveler. Il y a des malédictions qui vont te quitter le jour où celui qui en est propriétaire meurt. Parce qu'il n'y aura plus personne pour renouveler. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame, ça c'est le docteur Dika Olukuya qui racontait cette histoire. Il dit qu'une dame est venue le rencontrer, une dame priait avec eux, elle était à la prière, et ils ont prié ce jour-là, et à la fin il dit qu'il a reçu une parole de connaissance, et cette parole de connaissance disait simplement, il y a quelqu'un au milieu de nous, qui va être libéré de ceux qui l'ont oppressé depuis longtemps. Et elle va être libérée comment? Les personnes qui l'avaient oppressée pour qu'elle n'accomplisse pas le plan de Dieu vont mourir subitement. Et elle aussi, bon, il y avait beaucoup de gens. Elle a dit amen à la parole, sans plus. Et lorsqu'elle arrive chez elle, elle raconte que elle s'est fait un thé pour pouvoir se remettre un peu de temps de prière. Et juste au moment où elle prenait son thé, son téléphone sonne. Elle décroche. Et la voix de l'autre côté lui dit, ouais, s'il te plaît, Asia, tu viens de perdre ton oncle vient de mourir. Elle a lâché le thé, elle est tombée à terre, pleurer. Pourquoi? Parce que ses parents étaient morts tôt. Et c'était cet oncle qui l'avait élevé. Et qui était resté comme son parent proche. Le bras droit, l'homme, le chef de la famille. Alléluia. Et aussitôt que cet homme est tombé, il est mort. Elle dit que pendant qu'elle pleurait, son téléphone est encore sonné. On lui dit, ta tante vient de mourir. Elle roule encore à terre. Alléluia. Et alors pendant qu'elle pleurait encore, son téléphone est encore sonné. Et on lui a annoncé qu'une troisième personne venait de mourir. C'est alors que l'Esprit de Dieu a frappé sa tête. Que rappelle-toi la parole de connaissance que tu as dit Amen. Elle s'est levée, elle a rangé son thé et elle a continué à boire. Et quelques mois plus tard, elle s'est mariée après 40 ans d'attente. Alléluia. 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 Mais bien aimé. Quiconque est responsable de l'héritage négatif dans ta vie et dans ta famille, je décrète qu'en ce mois de janvier, qu'il soit enseveli. Je dis 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 qu'il soit enseveli. Au nom de Jésus, quiconque est responsable de ta douleur, de du retard, de ta confusion, je décrète au nom de Jésus, parce qu'il faut que quelqu'un meure pour que la vie vienne, qu'il soit enseveli, qu'il soit enseveli, qu'il soit enseveli, qu'il soit enseveli, au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Je ne vais pas trop te garder. Demain, tu vas être dans la prière. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, le verset 24. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Amen. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des gens que s'ils ne meurent pas, les fruits ne peuvent pas sortir. Alléluia. Alors, si cet homme, Géasi, sa postérité venait ici, tout ce que nous avons fait est de les introduire à l'autel afin d'y détruire les archives et les enregistrements. Alléluia. Parce qu'il y a des archives qui continuent à parler contre nous dans le spirituel. Et cela parlait pour la postérité de Géasi sous la forme de la lèpre. Alléluia.